Europe 1, en balade avec Vanessa Bruno, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Nous partons en balade avec une créatrice de mode, Vanessa Bruno. C'est un cabas à paillettes qui a lancé sa marque il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle nous emmène dans son Paris à elle, le Paris des Templiers, d'Henri IV et d'Honoré de Balzac.
Europe 1, en balade avec Vanessa Bruno, Frédéric Taddeï.
Bonjour Vanessa Bruno.
Bonjour.
Nous sommes dans les jardins des Archives nationales qui ont été ouverts au public en 2011. Alors là, vraiment, vous me scotchez, je n'étais jamais entré, c'est extraordinaire.
Oui, c'est très joli.
Un havre de paix longé par des vieux hôtels particuliers, mais de la grande époque, donc des très très grands hôtels particuliers. Et quand vous avez découvert cet endroit avec sa pelouse, sa rivière qui serpente, ses arbres et surtout ce soleil extraordinaire.
Exact. Non, c'est un petit coin de rêve au milieu de Paris, assez intime, puisqu'il est un peu caché, personne ne le voit.
Ah oui, on peut tourner autour pendant des
et
années.
Et on ne voit pas.
Je connais ce quartier assez bien, je crois, je n'y étais jamais entré.
J'ai la chance tout simplement de vivre dans ce quartier depuis plus de 25 ans. Donc quand même, à un moment.
Alors autour de nous, il y a les hôtels de Rohan, l'hôtel d'Assy, l'hôtel de Breteuil, l'hôtel de Soubise.
Oui.
Voilà, et on est dans les jardins. Et
celui-là, c'est l'hôtel de Jeancourt,
voilà,
qui est quand même très joli puisqu'il a sa petite fontaine juste devant.
Et l'hôtel de Rohan, qui était devenu les Archives nationales, c'est pour ça qu'on l'appelle
les Archives nationales.
Le jardin des Archives nationales. C'est votre quartier ici ?
Oui, absolument.
Vous habitez ici ?
Alors, je suis dans le quartier depuis maintenant plus de 25 ans. Donc, j'ai vu ce quartier évoluer. Ce jardin, heureusement, pas beaucoup bougé. Il est resté tel quel, si ce n'est qu'on a des jardiniers extrêmement doués qui font évoluer la végétation. Dès que le printemps arrive, ils plantent des petits panneaux, ils vous indiquent quelle plante c'est.
Votre voilà, c'est première charmant. Boutique était tout près d'ici, non ? Rue Ferdinand Duval.
Alors, oula ! Ouais, alors là, c'est vraiment il y a longtemps.
Oui, tout début.
Exactement.
Début des années 90.
Début des années 90, rue Ferdinand Duval. J'étais au fond de... J'avais ma boutique, j'avais mon atelier derrière. Et ouais... Ça a été une expérience pendant 5 ans. Et après, je suis partie du côté de Bastille. Mais je suis revenue dans le Marais, puisque j'ai une boutique aujourd'hui qui est là.
Aussi. Vous avez combien de boutiques maintenant dans le monde ?
Dans le monde, j'en ai pas énormément. Mais j'ai des boutiques que j'aime énormément, par contre. J'en ai 8. Et sinon, j'ai surtout ce qu'on appelle
des points de vente.
Des points de vente.
Alors là, il y en a partout. Là,
là j'en ai pas mal.
Alors, il paraît que vous fêtez les 20 ans de votre célèbre cabas à paillettes, celui qui a lancé la marque. Ça fait quoi maintenant ? Il date de 98, ce cabas.
Ouais.
Ouais, donc, absolument. Vous le fêtez pendant assez longtemps.
Je le fête. Bah, écoutez, on m'a dit, au fait, il a 20 ans, il faudrait faire quelque chose. J'ai dit... Ouais, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est absolument incroyable d'avoir un succès pareil.
Il paraît, alors j'ai lu selon les articles, il s'en vend à toutes les 30 minutes ou il s'en vend à toutes les minutes.
Bon, ben on est sur la minute là. On est passé sur la minute.
Donc là, tout le temps qu'on va passer ensemble, il va s'en vendre 90 à peu près dans le monde.
Absolument. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'il s'en vend beaucoup. Et surtout, il s'en vend beaucoup dans des lieux où il n'a pas été diffusé énormément. Donc c'est vrai que les gens font l'effort.
Mais au départ, il était comment ? C'était juste de la toile de bateau avec...
Ah non, mais moi, c'était dans ma façon de vivre. C'est-à-dire que j'ai fait un sac parce que j'étais tout le temps en vélo, que je venais d'avoir ma fille. J'avais besoin non seulement d'avoir mes trucs de boulot, mes croquis, mes tissus, mais aussi ce que j'avais besoin pour ma fille. Et j'ai fait ce sac en toile, qui est de la toile de canvas, d'ailleurs, qui est vraiment une toile à bateau à la base, puisque ça vient...
Donc solide.
Très solide, ça vient de la Bretagne. Et puis, il fallait un côté ludique et j'aimais bien la paillette. Donc voilà, ça a commencé comme ça.
On entend les oiseaux, c'est chouette, hein, ici.
Ouais.
Il y a un marronnier d'Inde, je crois que c'est le seul de Paris.
Exactement, ouais. Exactement. Il est par là-bas. Et les cerisiers, il faut venir ici au moment de... D'ailleurs, ils sont ouverts un peu plus tôt cette année, j'ai vu.
Ce sac Kaba ou ce Kaba sac, vous l'avez décliné dans toutes les couleurs, tous les tissus depuis, parce que c'est quand même le symbole de la marque Vanessa Bruno.
Bah, il ne faut jamais oublier que d'abord, j'ai toujours fait des vêtements. Et ce que j'ai fait, c'est en fait, j'ai accompagné à travers mes collections un sac qui pouvait raconter l'histoire de mes collections. Donc, quand les gens disent que j'ai fait beaucoup de couleurs et beaucoup de matières, c'est surtout que chaque fois, je racontais à travers une saisonnalité, quand il devient en paille ou en lin ou en cuir ou en feutre. Je raconte aussi une histoire d'une collection à travers ça.
Toutes vos collections, moi, me semble-t-il, racontent la même histoire. C'est une mode plutôt facile à porter, fluide, confortable, pour des femmes qui veulent rester naturelles.
Bah, disons que c'est... Pour moi, avant tout, j'essaye de sublimer le quotidien. C'est vrai que mon ADN est un ADN autour d'un esprit bohème, d'une parisienne nonchalante, chic.
Post-hippie chic.
Ouais, décontracté, ça c'est clair. Mais c'est vrai que ces codes ont toujours été là depuis le début. Parce que voilà, il ne faut pas oublier que ça fait très longtemps que je fais des collections. Mais j'aime ça. Et l'avantage d'aimer ce que vous faites et surtout de rester dans votre univers, c'est que vous arrivez à développer, à créer toujours une histoire autour d'une femme. Un peu la même, mais qui est différente quand même, parce que l'histoire, c'est de faire rêver les femmes.
Et est-ce que vous êtes habillée en Vanessa Bruno ?
Alors, je suis toujours habillée par ce que je fais. D'ailleurs, quand souvent, c'est assez drôle, on me pose la question, « Ah, tes chaussures !» Je les regarde, « Bah, oui, c'est moi. »« Ah, mais !» Je dis, « Voilà, ne cherche pas !»
Et les lunettes ?
Ah non, ça, c'est pas moi. Je n'ai pas encore lancé ma marque de lunettes. Mais je chine pas mal les lunettes.
C'est les lunettes dans le cas de soleil, il faut dire, il fait très beau.
Lunettes de soleil, ouais, absolument.
Uh-huh. On entend le bruit du jet d'eau dans la rivière. Mais vous avez le temps de vous promener ici, de bouquiner, alors que vous êtes quand même une chef d'entreprise. Vous êtes très occupée, non ?
Non, il faut prendre le temps. C'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques années, on va dire, quand j'ai arrêté de défiler. J'ai décidé...
En tant que mannequin, vous voulez dire ?
Ah non, mais ça, c'était il y a très très longtemps.
Encore plus longtemps.
Non, quand j'ai arrêté de défiler, j'étais très heureuse, j'adorais ça. C'est vrai que c'est une expérience incroyable. Mais on n'a plus de vie. Et sincèrement, étant indépendante, devant aussi être dans un système entrepreneurial, gérer beaucoup de choses à côté, je trouvais que c'était un peu lourd et j'avais besoin de me retrouver à avoir du temps. Parce que notre système aujourd'hui fait qu'on vous demande de faire des collections tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, il y a plus de... Vous avez du mal à reprendre votre souffle. Et je me suis dit que peut-être ce qui est le plus important, plutôt que de s'évertuer à faire quelque chose qui prenait énormément d'énergie, mais qui finalement me donnait très peu de temps pour redémarrer une nouvelle collection, je me suis dit qu'il faut que je retrouve du temps.
Donc plus de défilés.
Plus de défilés, absolument. Mais c'est vrai que je continue à faire 4 collections par saison. Mais par contre, je pense que c'est important aujourd'hui, quand vous avez fait autant d'années des collections, d'avoir le plaisir d'en faire et de trouver du temps pour soi et pour la création.
Ben on va partir en balade.
Allons-y.
On reste dans le marais. Hein.
Absolument.
C'est chez vous le marais. Allons-y.
Europe 1, en balade avec Vanessa Bruno. Frédéric Taddeï.
Ce dimanche, vous êtes en balade avec Frédéric Taddeï, la créatrice de mode Vanessa Bruno. On les rejoint tout de suite dans le 3e arrondissement de Paris.
Nous voilà au 78 rue Vieille du Temple, au café La Perle, un vrai bistrot de Paris avec ses banquettes en moleskine, son comptoir en zinc. On entre, on va s'asseoir. C'est votre QG ici.
Ouais, c'est mon QG avec mon copain Didier. Salut. Et toi,
Didier qui est derrière le bar, Didier qui est là depuis toujours.
Pilier, c'est là depuis toujours, Didier.
Oh, on va dire ça comme ça, presque, oui.
Ah ben le voilà. Regardez-le.
Jesus.
Jesus is there. Ça va, Jean-Philippe ?
Bonjour.
Bonjour.
Ah, je t'avais prévu. Je ne pouvais pas passer sans passer par ici et parler de toi.
Je la croise tous les matins, en fait.
Oui. Elle vient prendre son petit déjeuner ici.
Pas tout le temps.
Pas tout le temps.
J'ai l'impression que rien n'a changé ici depuis toujours, en fait.
C'est exactement ça. Rien n'a changé depuis toujours. C'est ça.
Là, on est dans la petite salle du fond. Il y a moins de bruit. Et, alors moi, j'aimais beaucoup venir ici parce que j'ai l'impression qu'il y avait toujours tous les plus jolies filles de Paris. Alors à la terrasse ou à l'intérieur ?
Ça, c'était avant, mais je crois qu'elles sont toujours là. C'est toi qui ne viens plus, en fait. Il me semble.
Bon, ben voilà, il va falloir que je revienne. Qu'est-ce qui vous a attiré ici, Vanessa Bruno ?
Oh, vraiment, l'équipe, l'ambiance. Moi, enfin, on se connaît depuis l'ouverture. Et c'est vrai que d'abord, il a transporté Marseille à Paris, quand même. Il ne faut jamais oublier. Donc un Marseillais qui ouvre un bar et qui devient plus parisien que parisien, c'est quand même incroyable.
Non, je ne serai jamais parisien.
Voilà, n'oublions pas.
Même l'accent, il l'a gardé. Alors, il paraît que vous avez ouvert un rooftop au sommet.
Oui.
C'est récent, les rooftops à Paris, ça n'existait pas. Il fallait aller à Rome pour avoir des rooftops.
Moi, j'aurais dit plutôt New York, Londres, mais oui. Ouais. Ben, on va pouvoir monter voir si vous voulez.
Et donc maintenant, on a des terrasses au sommet des immeubles où on peut boire des verres. Il y a un autre endroit ici, mais très secret, c'est la Kiss Room qui est juste derrière. Alors, la Kiss Room, vous êtes allée, Vanessa?
Ah oui, bien sûr. C'est une chambre j'ai visité, hein.
C'est une chambre de 12 mètres carrés, tapissée de miroirs qu'on peut louer que sur Airbnb.
C'est ça. Oui.
Et qui a 300 euros à peu près la nuit.
Oui, et qui a été fait par l'artiste Mathias Kiss.
Tout le monde se demande qu'est-ce qu'on peut bien faire dans une chambre tapissée de miroirs.
Bah, une retraite, se retrouver avec soi-même. on peut faire tout ce qu'on veut, en fait.
Il y a une salle de bain.
Oui, il y a même des toilettes. Ses cheveux, des cotons-tiges, avec tout ce qu'il faut quoi, pour pouvoir prendre une douche après.
Effectivement. Et vous, alors, vous prenez le petit déjeuner ici, Vanessa Bruno?
Non, je viens surtout heure de l'apéro, pour être très exact. Mais c'est vrai que de temps en temps, je viens prendre un très bon thé. Et surtout le dimanche, il fait des super brunchs. Enfin, d'ailleurs, il fait des brunchs tout le temps maintenant. Mais c'est vrai que le dimanche, j'adore prendre le brunch. Donc, c'est un rituel. On rencontre les copains du quartier.
Pas que les copains du quartier. Il y a les touristes aussi, beaucoup, quand même. Hein.
Quand il est tôt, ils ne sont pas encore là, les touristes.
Quand il est tôt, absolument, il a raison. Quand on connaît cet endroit, on fait abstraction du côté touriste. Mais je dois dire que j'ai passé des soirées ici et qui sont justement sympathiques parce que tout d'un coup, on rencontre des gens qui sont des étrangers, qui viennent dans cet endroit et on commence à discuter. En plus, il a des soirées de temps en temps, il met la musique, il y a un DJ. Donc, ça devient un endroit comme ça très fun. Mais où on peut rencontrer plein de gens différents.
On se regarde beaucoup, c'est très parisien, cela dit, de se regarder beaucoup.
Je ne suis pas d'accord avec ça.
Non,
justement. Je pense que le fait que c'est un endroit très simple comme ça, c'est assez brouillon, il y a beaucoup de monde quand c'est plein et donc personne ne peut vraiment se regarder finalement. Non mais c'est vrai, je dirais qu'en terrasse...
Jean-Philippe
en
a une moue dubitative, il est comme moi, il regarde beaucoup.
Moi, c'est bien un truc de garçon alors, c'est peut-être moi qui suis un peu...
C'est peut-être toi qui ne regardes pas, mais nous on regarde.
Oui, quand même, non mais c'est vrai.
Non, il y a des bons looks, c'est vrai qu'au moment de la Fashion Week, il y a des bons looks, je regarde ça c'est vrai. Il y a des bons petits looks, on est d'accord.
Paris, ça reste encore créatif sur ce plan.
Ah ouais, heureusement.
La parisienne, ça existe toujours ?
Oui, mais je trouve que ce quartier étant extrêmement cosmopolite, il a ça de plus intéressant, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui viennent de tous les horizons. Et là, tout d'un coup, il y a un mix culturel qui se passe. Et sincèrement, venir ici à des moments où justement, quand ça se passe, c'est hyper intéressant de voir tout ce mix culturel qui se mélange.
Jean-Philippe, vous reconnaissez encore les parisiennes, vous ?
Je les reconnaîtrai toujours.
Ouais. Et on les reconnaît à quoi ?
Ce sont les plus belles, en fait.
Oui, c'est ça, c'est de la démagogie. C'est la chanson d'Andy, oui.
Non, ce sont toujours les plus belles. Ça, c'est la chanson ça de Polanka. Resteront les plus belles.
Chanson de Polanka.
La fille de Paris sans la plus jolie de
Il doit y avoir quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose, vous voyez, de créatif chez les Parisiennes depuis toujours. Elles inventent des trucs, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça s'est diffusé dans le monde entier.
Non, mais je pense que c'est surtout ce côté l'air de rien. C'est-à-dire qu'il y a un naturel chez elles, une sophistication, mais avec un côté un peu l'air de rien. Ce qu'on appelle finalement cette allure, ce je ne sais quoi. Qu'elles nous disent toujours, quand je fais des interviews avec des étrangères, des américaines, c'est quoi votre je ne sais quoi ? Je dis, je sais, je ne sais quoi. Non, mais c'est vrai qu'on a ce naturel qui est dans quelque chose qui se veut en même temps élaboré à travers une silhouette, mais je pense que le côté parisienne, c'est cette fille qui sait se connaître et qui va pas aller s'habiller avec des choses qui lui ressemblent pas. Au contraire, d'ailleurs, souvent vous la voyez un peu habillée de la même façon, parce qu'elle connaît son corps, elle connaît sa silhouette, elle va se mettre en valeur de cette façon-là.
Là, ça va être lors du déjeuner, Jean-Philippe. Il paraît que vous avez engagé un ancien du Ritz. Maintenant, c'est le seul bistrot de Paris.
C'est vrai.
Qui a l'air de rien, lui aussi, qui est typiquement parisien.
Tout à fait.
Le chef vient du Ritz.
Il s'est retrouvé à la Perle. On ne se quitte plus depuis 6 ans maintenant.
Oui, c'est ça. Et c'est lui qui, même les croque-monsieur avec des frites, c'est lui.
C'est tout à fait, c'est lui.
Eh bien, on va continuer notre promenade. Merci Jean-Philippe.
Merci à vous.
Et
merci
à bientôt, Vanessa. Je vais revenir alors.
Il faut faire le rooftop. Et il faut se faire le rooftop parce que c'est extraordinaire quand il fait
beau. Quand il fait beau, ouais.
Mais même, tu as réussi à faire quelque chose d'agréable.
Même quand il fait pas beau.
Frédéric Taddeï se balade avec Vanessa Bruno sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, vous vous baladez avec Frédéric Taddeï et Vanessa Bruno, que l'on ne connaissait pas autant fan de vélo.
Nous sommes en balade avec Vanessa Bruno aujourd'hui et Vanessa Bruno à pied. C'est étonnant, normalement vous êtes à vélo, toujours sur un vélo hollandais. Ça devait être difficile, il y a 25 ans quand vous avez commencé, c'était pas encore la mode de se déplacer à vélo dans Paris.
Ah, c'était plus facile. Ah d'abord, il y avait moins de trottinettes, de vélos, de scooters. Non, mais de toute manière, j'ai toujours réussi à me faufiler. Je connais bien Paris, j'aime bien me balader dans Paris en vélo.
Est-ce que vous savez pourquoi on a si peu privilégié les pistes cyclables en France par rapport à la Hollande ou à d'autres pays? C'est parce qu'on fabriquait des mobylettes.
Je pense qu'on fabriquait des mobylettes, mais c'était
sympa. On privilégiait les mobylettes.
J'avais bien eu ma première petite mobylette.
Voilà, avant, il y avait le Solex, ensuite les mobylettes. Toutes les motocyclettes étaient privilégiées et les vélos, surtout pas, parce qu'il aurait fallu les acheter ailleurs.
Exactement.
Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais de moral à zéro.
Mais c'est vrai que, surtout dans Paris, c'est quand même incroyable de pouvoir se balader en vélo ici. On découvre des choses. Mais je pense que les pistes cyclables sont une très bonne chose. Après, je pense que nos rues sont tellement petites à des moments que c'est un peu compliqué.
Ouais, c'est surtout compliqué pour les longues voitures à la new-yorkaise.
Ah, ça,
les
c'est
limousines,
clair.
Celles-là, elles ont vraiment du mal. Ça n'a jamais réussi à percer.
Donc... Ça n'a jamais, surtout dans Paris.
Elles ne peuvent pas tourner dans les rues du Marais, donc c'est impossible. Est-ce que l'industrie de la mode a beaucoup changé depuis vos débuts alors, comme mannequin d'abord, puis comme très vite, comme couturière, je l'ai dit, mais on ne dit pas ça, alors on va dire créatrice de mode.
Oui, d'ailleurs, je me considère surtout comme une styliste, avec mon univers, plus qu'une... qu'un créateur ou une créatrice. Ça a énormément changé, absolument. D'abord, ça s'est accéléré. Là où j'ai commencé, je faisais 2 collections par saison, une collection printemps-été, une collection automne-hiver. Maintenant, j'en fais 4.
Et encore, il y en a qui en font beaucoup plus.
Il y en a qui en font beaucoup plus. Et puis, sans parler des réseaux sociaux, ça s'est accéléré. Il faut tout le temps nourrir, donner de l'information, de la nouveauté. Donc, ouais, c'est... Pour quelqu'un comme moi qui est indépendante, qui a ma propre maison, c'est vrai que c'est intense, mais c'est en même temps assez incroyable de pouvoir faire ce métier de façon totalement libre et indépendante, donc je me plains pas.
On passe devant le musée Picasso.
Absolument, sublime.
Vous aimez beaucoup le mot amour, Pablo Picasso.
Mais oui. Ouais,
vous aimez bien les gens.
J'aime beaucoup les gens.
Tout le monde.
Et j'y adorais pas de gens, je crois que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas ? Un pot de chambre, n'importe quoi.
Je vous disais, dans les années 90, quand vous avez débuté, c'est le moment où, dans les magazines de mode, on a commencé à publier des photos de vêtements importables, dont ouais. On savait très bien que jamais personne ne les porterait. On les passait juste parce que c'était spectaculaire. Mais ça a été une vraie révolution, je trouve. Autrefois, ça ne se faisait pas. Dans les magazines de mode, on passait des photos de vêtements que les gens pouvaient porter. À partir de là, il y a eu une espèce de surenchère. J'ai l'impression que vous êtes né de presque comme une anti-spectaculaire.
D'abord, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents sont dans le milieu de la mode. Donc j'ai eu de la chance. Il y a une école là qui est par là. Bonjour les enfants. Ah voilà. Ils veulent tous être célèbres. Le monde a changé. Tous les enfants veulent être célèbres.
C'était une école.
C'était une école, absolument. Non, je voulais dire, c'est que j'ai eu de la chance de grandir dans un milieu qui était vraiment les précurseurs du prêt-à-porter.
Votre mère était mannequin, elle était danoise. Et votre père, lui d'origine italienne, il travaillait chez Emmanuel Kahn, hein, je crois.
Non, il a fondé Emmanuel Kahn à l'époque.
Donc, qui était une des grandes marques du prêt-à-porter des années 60.
Ouais, au même titre.
Emmanuel Kahn avec ses célèbres lunettes.
Absolument, les lunettes pour certains qui connaissaient. Mais c'était au même titre que des marques comme Sonia Riquel à l'époque.
Ou Cacharel.
Ou Dorothée Biss. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'a évolué tout d'un coup une mode qui était plus difficile à porter dans les années 80-90. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette époque hyper créative, si ce n'est que je me suis toujours sentie ancrée dans un besoin de m'habiller au quotidien, comment j'avais envie de m'habiller. Donc, la contrepartie de ça, c'est que je n'avais pas besoin de faire des choses comme une expression, même si je trouvais extraordinaire. Là, il y a un film qui sort sur Alexander McQueen. Et je pense que ce film, il est important parce que ça révèle d'un créateur qui a marqué
Alexander
notre
McQueen
temps.
Qui s'est suicidé.
Oui, hein. Absolument. Mais en ce qui me concerne, moi, j'avais vraiment besoin de m'inscrire dans une réalité. Je pense que j'avais ma mère et ses copines comme icônes qui avaient toujours ce sens de trouver des choses, de voyager, ramener des choses à travers le monde, se réapproprier ça dans un style quotidien, mais en même temps le twister à travers une veste d'homme en tweed, différentes choses, des blouses roumaines où tout d'un coup elle portait ça avec une veste Yves Saint Laurent. Donc c'était toujours cette façon de mélanger.
Mais aujourd'hui, il y a une autre révolution, c'est l'arrivée de H&M, de Zara, de la mode low cost.
Ah oui, ça c'était très important. Mais moi j'ai toujours dit que c'était une bonne chose parce que ça a permis aussi à des gens de mieux s'habiller quelque part. Parce que quelque part l'offre qu'ils donnaient, c'était aussi une offre, même si on est tous d'accord que ils prenaient un petit peu de ce qui se passait dans l'air du temps au niveau de voir, ils copiaient. Mais quelque part, ce qu'ils offraient, ça permettait à, je veux dire, une personne lambda qui n'avait peut-être pas les moyens de s'habiller mieux. Moi, je l'ai vu plutôt comme ça.
On est rue de Turenne, devant l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement, qui a été bâtie de 1826 à 1835. Il y a une... C'est écrit, hein.
Voilà.
On n'a qu'à le lire.
Je suis rentrée une fois, c'est un peu austère.
Ah bon?
Mais bon.
Bah, y a une Pietà d'Eugène de la Croix.
Absolument.
Qui vaut, paraît-il, le déplacement.
Joli mais austère.
Nous sommes en plein marais. Hein.
Alors, c'est le quartier où il y a énormément de galeries. Et encore pas loin de chez moi, la galerie de mon ami. Voilà. Donc, j'ai fait simple. Je vous amène.
On dit de votre ami. Vous ne dites pas, vous pourriez dire de mon mari, de mon mec.
Moi, je me sens de mon mec, de mon.
Ah ben, on rentre dans une. Ah ben ça, c'est le vieux Paris, hein. On rentre tout à
voilà.
Coup.
Weber Métaux, et c'est un ancien.
Bonjour, on s'était rencontrés ici, je me souviens, il y a longtemps, c'était un vernissage. Je parle à Franck Elbaz, hein, qui est le propriétaire de la galerie.
Bonjour.
Pardon.
Et l'homme qui partage la vie de Vanessa Bruno. Nous sommes dans un grand hall, il y a des projections. C'est la vidéo maintenant, hein,
alors justement,
le nouveau nerf de la guerre de l'art contemporain.
Non, c'est du cinéma. On est dans le champ du film, plus que de l'art vidéo. C'est une artiste américaine qui s'appelle Jatovia Gary, qui vient de Brooklyn.
Ah, je croyais qu'elle était texane.
Elle est. Elle est née au Texas, mais là, elle est basée à Brooklyn. Et elle vient du champ du cinéma, plus que de l'art vidéo. Elle a assisté Spike Lee par le passé et on présente son tout dernier film, ça fait 40 minutes, donc on est vraiment dans le champ, un truc narration, storytelling, voilà. Et c'est une triple projection où elle mélange une sorte de carambolage, collage entre des images d'archives.
On voit Nina Simone.
Voilà, le festival de Montreux 76, très très beau, où elle fait une cover de Feelings et ensuite des images qu'elle tourne elle-même, enfin avec son équipe, dans les rues d'Harlem, où elle demande à des femmes blacks si elles feel safe. Do you feel safe?
Ça veut dire, est-ce qu'elles se sentent en sécurité?
Voilà, donc on est sur un sujet, bien sûr, sur les blacks américains, la société américaine, la violence, des images d'actualité sur des arrestations d'un flic blanc qui arrête une femme noire.
On va regarder quelques minutes de ce film, et comme les auditeurs ne peuvent pas les voir, on va leur passer un disque. Je me suis dit que « You make me feel like a natural woman », chanté par Carole King, ça devait vous plaire, Vanessa Bruno.
Bingo.
Voilà.
Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day, feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause
c'était You Make Me Feel Like a Natural Woman, chantée par Carole King. Une de vos chansons préférées?
C'est vrai que c'est ma chanson préférée. J'ai été élevée avec cette chanson et je continue à l'écouter. Mais,
et là, on entend Nina Simone. On se retrouve dans un instant.
C'est dans une galerie d'art du 3e arrondissement qu'on rejoint Frédéric Taddeï, la créatrice Vanessa Bruno, mais pas que. Une troisième personne s'est greffée au duo.
Nous sommes dans la galerie Franck Elbaz avec Vanessa Bruno et Franck Elbaz. On est au 66 rue de Turenne, à côté de l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement, deux pas de la galerie d'Emmanuel Perrotin qui est juste à côté. Il y a beaucoup de galeries ici, c'est le quartier.
Oui, nous sommes dans le quartier des galeries, Emmanuel Perrotin, le Minerej, le quartier historique du Marais.
Vous-même, vous avez ouvert une galerie à Dallas, au Texas. Alors, je comprends Los Angeles, je comprends Miami, mais pourquoi Dallas? À part le fait qu'il doit y avoir une boutique Vanessa Bruno dans le coin aussi, non?
Non. Nos activités ne sont pas forcément liées. Dallas, pour ne pas être une galerie de plus à New York ou Los Angeles. Avec des marchés beaucoup plus compétitifs et un prix de l'immobilier beaucoup plus élevé.
Il y a des collectionneurs à Dallas.
Il y a une
d'art contemporain, parce que profusion, vous faites de l'art contemporain.
Voilà, une profusion de grandes institutions et de grands collectionneurs américains basés à Dallas. Et j'avais envie d'écrire un peu mon histoire plutôt que d'être une énième galerie de plus à New York où elle est.
Vous avez été influencée par l'art contemporain, Vanessa Bruno, dans votre travail, à vous?
Ouais, absolument. C'est quelque chose qui est très important. Ça m'ouvre à d'autres choses. Et en même temps, c'est un peu une récréation, une respiration dans mon travail.
Mais vous êtes devenue la présidente du MoCo de Montpellier, non? Qui va ouvrir là, mai, juin.
Je travaille là-dessus depuis maintenant un an. Et on va ouvrir là, fin juin, avec Nicolas Bourriaud. Qui quand même...
Nicolas Bourriaud qui dirigeait
le Palais de Tokyo.
Le Palais de Tokyo à son ouverture, qui dirigeait les Beaux-Arts. Absolument. Et qui maintenant dirige aussi une école là-bas.
Alors, la Panacée. Ouais. Non, c'est-à-dire la Panacée, c'est un centre d'art. Il y a les Beaux-Arts de Montpellier qui sont aussi présents dans ce projet. Et il y a ce nouveau lieu qui est un grand hôtel particulier. Et là, ils ont fait un espace, et c'est sublime, qui va pouvoir exposer des collections privées ou publiques. Donc voilà.
Vous êtes allé voir, Franck ?
Pas encore, j'attends l'inauguration le 27 juin.
Montpellier,
qui bouge
soleil,
énormément. Ouais. Ouais.
Mais c'est un peu l'idée, ils veulent en faire la Californie de la France, avec un système, un réseau d'institutions, de lieux d'exposition, qui seraient tous connectés, hein, dans la perspective de l'UMA, la Fondation, Arles, Van Gogh, et donc Montpellier, avec cette réunion de l'Hôtel de Montcalm, l'École des Beaux-Arts. Non, mais un beau projet.
Et est-ce que Paris se défend côté art contemporain, parce que New York nous a un peu volé la vedette depuis le début des années 60.
Exactement.
Est-ce qu'on arrive à leur tailler des croupières
ou... Alors, il y a un article là, qui circule partout, où la France fait moins 6% alors que le monde fait plus 18% au niveau du marché de l'art. Non, c'est une réalité. Les plus grands artistes, les plus chers, ceux qu'on voit dans les musées, sont surtout anglo-saxons.
Et vous l'expliquez comment ?
Je l'explique par la force du marché américain, la puissance du marché américain qui a envie d'acheter ce qu'il comprend, c'est-à-dire d'abord des artistes américains.
Donc bientôt, ce sera le marché chinois qui fera la loi. Parce qu'il y a de plus en plus de collectionneurs.
Je comprends qu'il n'est pas vraiment d'accord avec ça.
Les Chinois achètent beaucoup d'Américains.
Ah oui, aussi. Oui, mais pour l'instant, tout le monde achète tout, la même chose. De toute façon. Voilà. C'est le problème de l'art contemporain. Autrefois, du temps des réalistes ou des impressionnistes, on pouvait changer de pays et tout était différent. Mais aujourd'hui, tout est pareil partout, non ?
Tout est plus mondialisé, standardisé, c'est vrai. Ouais. Ouais. Un Richard Prince, un Jeff Koons, c'est global. C'est l'effet de la mondialisation, quelque part. Ouais. Où il y a moins de chapelles locales et plus un marché international.
Oui, mais je trouve quand même que je vois beaucoup de travail de galeries qui arrivent à faire des choses, même si c'est des niches, mais qui sont très importantes, non seulement en termes d'œuvres, mais aussi au niveau des collections.
On a des bons collectionneurs quand même.
On a des très bons collectionneurs.
Et c'est pas gênant de pas avoir de pas de porte sur la rue, d'être caché comme ça dans un petit passage ?
Non, car mon activité fait qu'on travaille assez peu sur le passage. Voilà. J'ai assez rarement quelqu'un qui pousse la porte et qui me dit j'aimerais acheter ce film 85 000 $. Non, on travaille. C'est un tout petit milieu avec des institutions beaucoup et puis des collectionneurs qu'on dit institutionnels, c'est-à-dire.
Les institutions sur les musées, sur les centres
les musées,
d'art.
Les FRAC, enfin tout le réseau.
C'est quand même, ça reste toujours eux les premiers acheteurs d'art contemporain en France.
Les premiers, non, mais sur des médiums comme un film, comme celui-là, oui. Un tableau, vous avez plus de chances de le vendre à un particulier.
Ça reste toujours un mystère pour la plupart des gens de pourquoi on achète un film alors qu'on pourrait l'avoir en DVD à 25 euros. Pourquoi l'acheter 85 000 $?
Parce que le DVD à 25 euros, il est illimité, il n'a aucune valeur. Alors que le film que je vends est édité à 3 exemplaires.
Ouais, c'est ça, mais ça reste mystérieux pour tout le monde, hein, les multiples.
Non, c'est pas mystérieux dans le domaine de la photographie. C'est comme si je vous disais mes photos existent à 3 exemplaires et vous me dites bah, je fais une photocopie à 1000 et voilà. Mais quelle valeur elle a intrinsèquement ?
Bah, c'est surtout de la valeur de l'artiste, parce que dans son travail complet, c'est un film, mais c'est tout son parcours artistique derrière. Qui est important. Et donc, souvent, c'est des gens qui ne font pas que des médiums autour du cinéma, mais c'est des gens aussi qui peuvent aller chercher d'autres médiums et qui sont des artistes complets.
Oui, et puis les idées qu'elle défend derrière, qui sont en prise avec la société, des problématiques d'aujourd'hui, la violence, la place des Noirs dans la société américaine. Elle n'a pas été l'assistante.
J'aime bien cette question. Elle voit une femme, elle dit « Do you feel safe in your body ?» C'est une question importante.
Ça veut dire, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre corps ?
De femme.
Et vous savez ce qu'elle répond, bien souvent ? « Yes, I feel safe because I walk with God. »
Ce qui veut dire ?
Je marche, je suis en sécurité parce que je marche avec Dieu. Dieu est à mes côtés. Ce qui montre toute l'histoire de la religion, de la place de la religion dans la société américaine aussi.
Eh bien, on va continuer notre balade avec Vanessa Bruno. On va tâcher de marcher avec Dieu, nous aussi.
Absolument.
Merci pour votre visite. Merci.
À bientôt.
Bonne promenade.
Frédéric Taddeï se balade avec Vanessa Bruno sur Europe 1.
Vanessa Bruno nous fait découvrir ses coins préférés de Paris avec Frédéric Taddeï. Frédéric, qui a une question qui le taraude.
Nous sommes en balade avec Vanessa Bruno, créatrice de mode, qui m'empêche de marcher dans une crotte de chien.
Absolument, sur les ça trottoirs. Porte chance, mais quand même, on va éviter.
Voilà. Vous n'avez jamais eu envie d'habiller les hommes, Vanessa ?
Non. Mais j'adore donner des conseils, par contre. Ah oui ? Non, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil ?
Non, mais c'est vrai que j'aime ça. J'adore aller dans une boutique et conseiller la personne avec qui je suis. Tiens, essaye ça. C'est un jeu pour moi. Mais alors, de là à faire une collection homme, non.
Pourquoi ? Parce que au fond, vos collections, c'est comment vous avez envie de vous habiller, vous. C'est peut-être ça.
Et vous n'avez pas tort.
Les filles qui s'habillent en Vanessa Bruno, qu'elles soient à Singapour, à Taipei, à Los Angeles, elles s'habillent en Vanessa Bruno.
C'est vrai que je me dis souvent, à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, est-ce que je le mettrais, comment je le mettrais ? Après, j'ai des filles autour de moi qui m'inspirent. Et j'aime aussi avoir leur avis ou qu'elles portent le vêtement et je leur dis comment tu te sens dedans. Parce que quelque part, un vêtement, c'est une appropriation qui est très importante. C'est ce qui fait à un moment qu'on est là et qu'on se sent bien. Et qu'on se sent belle ou qu'on a envie comme ça de se dire « Ah voilà, ça, je suis bien là-dedans, je me sens bien dans ce vêtement-là. » C'est vachement important, je pense.
C'est quoi la mode aujourd'hui ?
Je pense que si on essaye de résumer la mode en une chose, c'est compliqué. Par contre, ce qui est bien... c'est que je trouve qu'à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, c'est que s'affirme justement des individualités. Et c'est ça que je trouve intéressant.
On dit que c'est toutes les modes à la fois, au fond, la mode d'aujourd'hui. À la différence de la mode des années 60, du temps où votre mère était mannequin, où on voyait bien, il y avait une silhouette, il y avait un genre.
Comme nous le voyons ici, les ensembles sont adaptés aux circonstances présentes. Sobriété dans les coloris. Simplicité dans la ligne, telles sont les caractéristiques des robes, des tailleurs et des manteaux que vous porterez cet hiver, mesdames.
Et à la fin des années 60, on ne s'habillait plus du tout comme on s'habillait au début des années 60. Et à la fin des années 70, c'était encore très différent.
C'est vrai, mais si on regarde la nouvelle génération, c'est du street. C'est vraiment du street. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est assez
sympa.
La mode
de la rue.
La mode de la rue, c'est du street. C'est des filles qui sont en basket. C'est souvent des filles qui ressemblent à des garçons qui ressemblent à des filles.
Il y en a qui arrivent en face de nous, d'ailleurs.
Ouais.
Elles ont des baskets, pas toutes.
Non, mais il y a vraiment ce côté beaucoup plus décontracté. On est beaucoup moins dans une volonté d'apparence ou d'effet. Et moi, j'aime bien ce côté hyper décontracté. Moi, j'ai ma fille, la génération de ma fille, avec ses copines, je les vois, elles sont comme ça. Mais elles aiment être féminines. Et elles aiment, en même temps, elles sont extrêmement sensibles à la mode. Donc, c'est plutôt d'arriver à jouer aujourd'hui de ces atouts-là sans rentrer dans un côté caricatural.
Et les garçons, vous les trouvez comment ? Ceux qui ont 20 ans, l'âge de votre fille ?
Moi, je les trouve assez cool. Je les trouve assez cool, encore une fois, dans cet esprit street. Alors, si vous me demandez le mec qui passe sa journée en jogging et celui-là, non, je le trouve pas plus cool que ça. Mais je pense qu'il y a... Dans ce quartier-là, je suis assez
Là, on passe devant
privilégié.
Le Progrès,
voilà, le Progrès.
Bretagne. Une autre terrasse, un peu comme la Perle, très fréquentée.
Bah, on ne va pas se cacher, c'est un peu le quartier bobo parisien. Enfin, moi, je l'ai vu évoluer et c'est vrai que quand vous vous baladez ici, vous voyez des bons petits looks, mais quand même une diversité.
Vous avez remarqué comme les garçons veulent être sexy maintenant ? C'est-à-dire qu'ils y travaillent. Autrefois, j'imagine qu'ils devaient vouloir l'être aussi, mais ils n'y travaillaient pas.
Oui, ils travaillent, ils leur
ils veulent concurrencer les filles sur leur terrain.
La bonne petite hauteur de pantalon, la bonne petite couleur de chaussettes, les bonnes pompes. Ça, je le vois, ouais. Il y a un petit côté hyper affirmé dans la sophistication, l'air de rien, dans leur tenue aujourd'hui.
Faut-il des piercings aux narines pour être une fashion victime ? Avoir des tatouages dans le bas du dos et le nombril en mille morceaux.
On est rue de Bretagne. On commence ici, toujours dans le 3e arrondissement. Il y a beaucoup de monde aux terrasses, dans les rues, beaucoup de restaurants. On va vers le marché des enfants rouges.
Marché très sympathique. Qui s'est transformé en food market, d'ailleurs.
Oui, on peut s'asseoir et manger partout.
Exactement. Donc, c'est moins un marché où on va faire ses courses comme c'était au début. Parce que moi, quand j'allais là-bas au tout début, quand ça avait été réhabilité, c'était vraiment le marché avec les petits... on trouvait de tout. Mais aujourd'hui, c'est devenu un food market. Et c'est vrai que c'est très sympa. Vous avez une très bonne japonaise, italien.
C'est fou comme ce quartier ressemble de plus en plus à Brooklyn, à moins que ce soit Brooklyn qui s'inspire du Marais.
C'est vrai, ça ressemble énormément à Brooklyn. Mais avec peut-être un côté qui reste encore un peu village ici, je trouve.
Là, vous avez toute une bande. Ils sont très, très à la mode. Hein.
Voilà, eux, ça y est. Voilà, là devant
des
nous.
Filles,
regardez,
des garçons.
Les filles ressemblent aux garçons.
Les garçons aux filles.
Les pompes, voilà, les cheveux rasés.
Alors que les garçons, les cheveux longs.
Ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est une mixité où on ne sait plus qui est le garçon et la fille.
Vous vous rendez compte qu'au début du Moyen-Âge, jusqu'au XIIIe siècle, les hommes et les femmes s'habillaient pareil.
C'est vrai.
La mode masculine ne commence qu'à partir du XIIIe siècle, où tout à coup,
absolument.
Et ils raccourcissent leurs vêtements, ils montrent leurs cuisses, leurs leur mollets.
Et on couvre les femmes de plus en plus.
Bah, elles veulent se distinguer. Et à l'époque, ça fait scandale d'ailleurs, le absolument. Fait que les garçons montrent leurs fesses. Et le fait que les filles ont des robes qui traînent jusqu'au sol fait scandale aussi. Est-ce que la mode fait encore scandale aujourd'hui ? Ça devient difficile, non ?
Non.
C'est pas votre truc, vous, en plus.
Non, mais c'est pas que. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui fait scandale. La vulgarité fait scandale dans la mode, plus.
Ah bon ? Pourtant, Dieu sait si elle l'a cultivée, parfois.
Ah ouais, mais la. Vous avez aujourd'hui, on voit les photos qui sortent, c'est la fille où il n'y a plus qu'un bout de sein qui est caché, le reste est complètement découvert, c'est plutôt ça. Mais bon, c'est amusant en même temps. Ah, voilà, on va aller chez mes copines.
Eh ben, on va se retrouver chez vos copines dans un instant. Mais d'abord, on écoute Kate Bush, Army Dreams. Je crois que ça figure sur votre compilation.
Absolument.
Plant a Tree.
Plant a Tree.
Voilà, on écoute une chanson, là encore, qu'aime beaucoup Vanessa Bruno. C'était Kate Bush, Army Tree, et on rentre chez Gachon Potier. On est 26 rue de Saint-Onge avec Vanessa Bruno.
On retrouve tout de suite Frédéric Taddeï et Vanessa Bruno dans l'une des boutiques préférées de la créatrice.
Nous sommes avec Vanessa Bruno chez Gachon Potier, un magasin de décoration qui se trouve au 26 rue de Saint-Onge. Il y a des coussins, des tapis, des assiettes, des bijoux, des sacs, des édredons. Et puis il y a les deux propriétaires. Présentez-nous, Vanessa.
Bah écoutez, d'abord, je voudrais dire que c'est un lieu qui vraiment est un passage obligatoire du troisième, parce que je trouve que ça associe ce qu'on appelle le bien-être, de la déco, en même temps des bijoux. elles chinent des choses absolument incroyables et en même temps elles font des choses elles-mêmes. Je te laisse te présenter, vas-y.
Alors donc moi c'est Florence.
Et moi Alexandrine.
Et effectivement, on a ouvert la boutique en 2014 déjà et t'étais au rendez-vous dès l'ouverture.
Absolument.
Avec nos tapis, nos assiettes qu'on avait rapportées de Thaïlande.
Exactement, sublime.
Et tu nous suis depuis.
Ouais. Et les bijoux que vous faites à chaque fois devant les clientes. Hein,
exactement. On est à l'ancienne.
Atelier boutique.
Ouais, et il y a les chaussons pour tourner qui ont beaucoup de succès aussi, je les vois là.
Tout à fait. Vous êtes très bien renseignés.
Ouais, c'est vrai. Et les garçons envient beaucoup les filles de pouvoir porter ça. On se dit qu'on doit être très très bien et ça doit être chaud.
Mais il y a aussi pour hommes. Nous allons jusqu'au 43. Très confortable. Oui, donc il y a beaucoup de choses, effectivement, surtout faites main.
Que tu ramènes aussi à travers tes voyages.
Exactement. Des choses qu'on essaye d'être, dans la singularité par rapport au grand vent d'uniformisation générale, tant dans la mode que la déco. On essaye de maintenir un cap de notre petit niveau.
Le cap, c'est un peu hippie, post-hippie chic. Hein,
ouais, c'est ici, ça. Hein. Ouais, c'est un esprit bohème, mais un esprit aussi artisanal, ce que j'appelle aussi l'art craft, qui est quelque chose de très important. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, faire travailler des artisans, des ateliers, qui soient aussi bien en France, elles ont cet univers d'atelier, puisque là, vous êtes présents, elles peuvent vous faire... sur place, votre collier, votre bracelet,
elles ont
même
tous les petits matériaux devant elles.
Mais c'est surtout même les pierres, ce qu'elles utilisent, les petits gris-gris. Enfin, c'est vraiment hyper joli, hyper délicat. La poterie, pareil, c'est une poterie. Chaque pièce est unique, comme si elle avait été peinte à la main. Et ces tapis qu'elles ont chinés, la plupart, je pense, c'était en Turquie, mais qui sont pareil, très beaux. C'est des teintures naturelles pour la plupart. Donc voilà, c'est un petit passage à chaque fois que j'aime bien. C'est un endroit où j'aime beaucoup faire des cadeaux parce que moi j'ai l'impression. Non, c'est vrai, j'ai l'impression quand je viens ici, moi je sais que je vais faire un cadeau unique. Et c'est important parce que c'est vrai qu'on est envahi toute la journée d'informations et de choses et d'autres. Et il faut regarder les choses qui se font encore de façon artisanale. Voilà.
Le quartier a bien changé hein, quand on pense que c'était dans cette rue qu'habitait Robespierre au début de la Révolution.
Oui. Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c'est que la propriété. Le droit de propriété est sacré, mais il faut le limiter.
Et Blaise Pascal a grandi ici. C'était là, oui, oui, oui.
Ah,
vous n'êtes pas n'importe où.
Ah non, on n'est pas n'importe où. Non, mais on est contente.
Mais c'est surtout un quartier dans les années 60. Enfin, moi qui l'ai vu évoluer pendant 25 ans, mais il y avait énormément de Chinois, d'Arabes, de Juifs. Enfin, il y avait tout. C'était le sentier. Donc, moi je venais beaucoup ici acheter des matériaux tout le temps. Donc, quand je l'ai vu changer, même des boutiques comme la vôtre. Qui étaient des petits ateliers au départ et que vous pouvez encore continuer ça et recréer
garder l'esprit.
Voilà, ça change, mais ça garde cet esprit-là.
Tu n'as pas l'impression qu'il y a de plus en plus de touristes.
C'est ça. Ah non, ça c'est clair.
Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des touristes partout. Et autrefois, ce n'était pas comme ça. J'ai l'impression qu'ils restaient à l'Opéra. Hein.
Oui, ou à Saint-Germain.
Oui, ou aux Champs-Élysées. Stranger beware, there's love in the air under Paris skies.
Try to be smart. Don't let your heart catch on fire. Non, c'est surtout des touristes jeunes. Parce qu'en fin de compte, c'est des touristes jeunes et très cosmopolites qui ont envie d'aller dans un quartier où ils vont avoir le sentiment qu'on ne leur fait pas vivre le Paris touristique, mais un Paris plus comment vivent les Parisiens.
Et c'est qui vos clients ou vos clientes ici ?
Un peu de tout, beaucoup de touristes, des gens du quartier.
Des fidèles qui traversent Paris voilà. Aussi.
Et il y en a beaucoup qui continuent de se faire faire leur petit bracelet comme ça, qui viennent, qui vous tendent le poignet et vous l'entourez de fils de métal et vous y glissez des perles.
Oui, alors généralement, c'est quand même ce qui est présent. Voilà, ce qui est présent, mais on peut modifier, arranger, faire des commandes sur mesure. Oui, oui, il y a cette grande souplesse que permet le fait main, évidemment.
Mais aujourd'hui, tous ces temps mondialisés... c'est devenu assez habituel. Je vois vos petits plateaux, par exemple. J'ai l'impression que j'ai ça depuis une éternité. Mes parents ont rapporté ça de voyage. Et maintenant, ils viennent directement à nous.
Oui, bah c'est ça. Oui, tout à fait. Les petits plateaux florentins des années 60-70. Après, tout revient, mais je pense que c'est aussi le temps et l'attention qu'on porte à chaque objet qu'on choisit, qui plaît à nos clients. C'est, on ne fait pas de concessions qui ne nous plaisent pas, en fait. Donc, oui, tout ce qu'on choisit souvent est voulu.
Souvent, les commerçants disent ça, mais je me dis, cela dit, si ce qui vous plaît à vous ne se vend pas, je suis sûr que vous allez aller chercher des trucs qui se vendront mieux, non ?
Eh ben, je pense qu'on est... Alors, on ne doit pas être dans le sens... Non, on a un bastion de résistance. On n'arrive pas à vendre ce qu'on aime.
Vanessa Bueno, vous faites pareil. Si vos vêtements vous plaisent et que personne ne veut les acheter, vous continuez de les fabriquer quand
ah
même.
Ah oui, non, mais ça, c'est le luxe de la liberté. Hein. C'est de faire ce qu'on
ce
aime.
Ce sera
oui.
ça ou rien.
Et ouais. Mais je pense que ça permet de gagner, enfin, de garder une ligne conductrice et une identité.
Ouais, et puis ce que je dis toujours, c'est que il faudrait.
J'allais enflammer ma veste là.
Vanessa Bueno. Vous brûlez votre veste.
Vient de sauver ma veste. Il y a une bougie, comme souvent dans le genre de boutique.
Non, non, mais je pense que c'est très important. Justement, moi, je vois par rapport à la clientèle, celle qui me suit depuis toujours ou celle qui rejoint la marque parce que tout d'un coup elle la découvre. Je pense que c'est ce côté justement où on fait pas de concessions, on reste très vrai avec soi-même et on leur apporte cet univers. Pourquoi ? Parce que sinon elles peuvent. Il y a tellement de marques ouais. aujourd'hui, ouais. tellement de marques. Donc si vous avez pas au moins, et je pense que ce qui fait le succès aussi du cabas, c'est que si vous
le fameux cabas, voilà, Vanessa Bueno.
Je pense que s'il continue depuis si longtemps, c'est que j'ai jamais essayé d'en faire un produit de marketing. Je
d'ailleurs,
l'ai
ça n'a pas tellement marché en France au début, je crois. Hein. C'est les
Japonaises. Non, ça a commencé par le Japon.
Ouais. Les Japonaises
et ça
adopté.
Continue d'ailleurs. Ouais. Oui, oui. Et je pars à Tokyo dans pas longtemps faire un événement dans un des plus grands magasins japonais. On va faire un événement autour du cabas que je recrée pour les 20 ans du cabas au bon marché au mois de juillet. Un bel événement.
Ah, voilà. Chouette.
Merci de votre accueil. On va continuer notre balade avec Vanessa Bueno. On se retrouve juste après les infos.
Frédéric Taddeï se balade avec Vanessa Bueno sur Europe 1. Frédéric Taddeï en balade avec Vanessa Bueno sur Europe 1.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec une styliste, une créatrice de mode. C'est Vanessa Bueno. On se promène dans le Marais, son quartier. Et nous voilà devant Candelaria, au 52 rue de Saint-Onge, un restaurant-bar mexicain.
De tacos.
Je vous imaginais plutôt buvant du thé vert.
Ah, mais il y a des moments où il faut passer aux choses sérieuses. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Ça va et vous ?
C'est là que vous mangez des tacos ?
Alors, on vient manger des tacos, mais on vient surtout boire des verres en début ou en fin de soirée, parce qu'il y a un petit bar, quand on pousse la porte du petit bar à tacos, derrière, il y a un bar.
Ah oui, c'est un speakeasy, comme on les appelle aujourd'hui.
Absolument.
C'est comme ça qu'on appelait les bars clandestins pendant la prohibition aux États-Unis. Ouais. Et là, il y a des bars cachés dans Paris. Et on pousse des portes de placard et on se retrouve dans des salles gigantesques.
Non, c'est tout petit. c'est tout petit et c'est vraiment très agréable. Ils font un cocktail que j'adore qui s'appelle la guêpe qui pique.
Ah oui.
Elle pique vraiment.
Et là, qu'est-ce qu'on peut prendre puisque le bar est fermé. Hein, c'est le soir.
C'est vraiment les tacos. Typiquement, mais alors en plus ils sont très très bons au chili, mais aussi bien au guacamole.
Mais on va en prendre un chacun.
Voilà, on peut commencer par un. On peut faire un chaque, un tacos.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui?
Vous pouvez prendre quel taco, le taco c'est bon.
D'accord.
Oui, le ceviche c'est très bon.
Bon ben un chaque. Parfait. Alors ici, il faut faire attention avec les condiments. Hein. Ça peut être hot ou très très hot.
Oh, c'est très très hot, ouais. Mais c'est surtout que, en fin de compte, c'est pareil. C'est ce qui est très sympathique avec ce quartier, c'est qu'on arrive ici, on n'est plus dans le Marais. On a l'impression qu'on a vrillé vers le Mexique, dans un petit quartier du Mexique, et on est là et on est complètement dépaysé.
Vous voyagez beaucoup, vous ?
Je voyage pas mal, mais beaucoup pour le travail. Ouais. Donc toujours un peu les mêmes endroits, j'ai envie de dire.
Ça vous dérange pas, je crois que vous passez vos vacances au même endroit en Camargue depuis toujours.
Ah, depuis toujours, ouais. Alors ça, c'est très important. C'est mon petit moment de bonheur.
Dans une maison qui, je crois, n'a ni l'eau chaude ni l'électricité.
Ouais, enfin, ça c'est.
C'était au début, ça.
C'était au début. On va dire quand même qu'on s'est amélioré depuis. Non, non, c'est assez sauvage et c'est ce que j'aime absolument.
Mais pourquoi la Camargue ? Il y a beaucoup de moustiques, tout le monde le sait, ça fait partie du charme.
Ah
mais...
oui, c'est ce que je dis toujours. N'allez pas en Camargue, il y a trop de moustiques.
Moi, l'avantage, c'est peut-être ça, c'est que vous y êtes seul.
Exactement.
Mais, c'est drôle parce qu'ici, on est depuis tout à l'heure, on se balade dans l'ancien enclos des Templiers. Hein, à Paris, c'était le temple. Qui était là, il y avait ses murailles, ses tourelles, son donjon, sa commanderie. Donc, on se souvient que Jacques de Molay, le maître du temple, a été brûlé vif par Philippe le Bel à l'époque.
Roi Philippe, avant un an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de mon race.
Et je crois que la Camargue, c'était pareil.
La
c'était
Camargue,
c'était
pareil.
Aussi,
c'était
Morte.
Arles, où le départ des... là-bas, sur, pardon, pas Arles, je voulais Aigues-Morte. Dire Aigues-Morte. Absolument.
C'est là où
il y a eu le départ
des
croisades. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous allez sur cette ville, de ce petit village médiéval, absolument incroyable, avec tout autour ces remparts. Enfin, moi, j'invite les gens à aller voir cet endroit. C'est un des rares endroits en France où vous avez comme ça une petite ville médiévale avec ses remparts et vous avez l'impression d'être projeté complètement dans le temps.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez avec les Templiers, vous, vous...
Oui, c'est vrai, maintenant que vous me faites remarquer, je ne sais pas. Peut-être qu'il devait y avoir dans mes origines quelque chose. Pourtant, avec le côté danois et le côté italien, je ne saurais que vous dire.
Ouais, et puis en plus, ça se finit mal pour les Templiers. Hein. On leur a tout piqué. On les a brûlés vifs. C'est pas un destin si recommandable.
Moi, je suis sûr. Je préférais. De toute manière, je suis complètement athée. Donc, comme ça, c'est réglé.
Alors, nos tacos arrivent.
Ça, c'est les ceviche.
Et le vôtre, c'est quoi ?
Il nous a fait deux ceviches.
Deux ceviches. On va goûter ça. Le problème du tacos, c'est qu'il est difficile de ne pas s'en mettre partout.
Ouais. Hein ?
Celui-là, en tout cas, il est délicieux.
Merci. Ah oui, là, c'est wild ici. Il n'y a pas de verre.
Mais vous étiez wild, jeune. Vous étiez mannequin, un peu punk. Non, c'est vrai.
Punk, non, mais j'ai beaucoup... fréquenter surtout les salles de concert.
Ouais.
J'étais pas plus punk que ça, non.
Ouais.
Mais j'étais beaucoup en salle de concert, absolument.
C'était la musique qui vous plaisait.
Ouais, c'était la musique. Ouais.
Pas la mode.
Non, je préférais la musique, c'est vrai.
Pourtant, la mode punk était assez inventive quand même. Hein. Les épingles à nourrice.
Ah, mais je passais beaucoup de temps à Londres. Il y avait vraiment un coin où j'adorais aller. Je ramenais, pareil, quand on traîne à Londres, on est jeune, on va chiner des trucs. Je pense que d'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me dire que je voulais faire ce métier. C'est que je déambulais dans les stands vintage à trouver des choses. Je les ramenais, je les retaillais, je les remettais sur moi. Enfin, je bricolais autour de ma propre personne les vêtements que j'aimais bien. Et c'est vrai que Londres a été une inspiration très importante, et surtout l'époque des punks.
Ça va être le Brexit, ça vous fait de la peine ?
Bah, ça me fait de la peine, effectivement, parce que je pense qu'ils ne se sont pas vraiment rendus compte de ce qu'ils ont pris comme parti pris et qu'aujourd'hui, ils sont en train de se dire « Waouh, ça va coûter cher ». Et que surtout, il y a une grande majeure partie des Anglais qui, eux, savent très bien que ce n'était pas forcément le bon choix. Mais bon, voilà.
Et le général de Gaulle disait « L'Angleterre est une île et elle entend le rester ». C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'elle rentre dans le marché commun.
On est bien d'accord. D'ailleurs, ils se sont toujours comportés comme ça, même depuis le début.
Ouais.
Mais bon, quand même, Londres étant une ville tellement cosmopolite et incroyable, je pense qu'elle le restera.
Eh bien, on va terminer notre taco, nos tacos au ceviche et continuer notre balade avec Vanessa Bruno.
Frédéric Taddeï se balade avec Vanessa Bruno sur Europe 1.
C'est toujours dans le 3e arrondissement que Frédéric Taddeï et Vanessa Bruno continuent leur balade jusqu'à midi et demi.
Et nous voilà rue de Picardie avec Vanessa Bruno. Nous sommes vraiment dans le Paris d'Henri IV puisque on vient de quitter la rue de Bretagne. Un peu plus loin, il y a la rue de Normandie. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Henri IV avait le projet de faire une grande place de France où convergeraient 8 rues qui porteraient les noms des principales provinces françaises.
Donc la Picardie, la Normandie, la Bretagne, le Poitou.
Ah, vous m'apprenez quelque chose.
Il est mort assassiné en 1610, comme chacun sait. Il n'avait pas eu le temps de faire la place, mais les rues sont restées.
Mais les rues, c'est pour ça.
Voilà.
Ah.
Donc quand vous passerez rue de la Beauce ou rue du Perche, vous saurez que vous êtes dans le Paris d'Henri IV.
Mais quelque part, quand on regarde le quartier, c'est vrai qu'il a ce côté extrêmement français, ancré, par ses noms, mais aussi par toute son activité. Il est fini par d'ailleurs au milieu par le carreau du Temple.
Oui, là on est dans l'enclos du Temple, hein, toujours.
Absolument.
Le carreau du Temple, le square du Temple. Ça, c'était avant Henri IV, hein, ça, c'était au Moyen-Âge. Et puis ça continue avec la comédie humaine de Balzac. Hein. Il y a beaucoup de romans de la comédie humaine qui se passent ici, dans ces rues. Un jour, on dira peut-être que c'est le Paris de Vanessa Bruno.
Ah non, mais c'est mon quartier, ça c'est sûr.
Alors, je le disais au début de cette émission, votre mère est danoise. Qu'est-ce qu'il y a de scandinave en vous et dans vos vêtements?
Je pense, par le fait que j'ai été élevée beaucoup au Danemark aussi, il y a un côté extrêmement naturel. J'aime les matières naturelles. On est entouré de la nature, on est entouré de beaucoup de matières naturelles en Scandinavie.
Et puis les couleurs tendres aussi.
Et des couleurs tendres.
Ça, c'est très
une certaine douceur,
hein.
C'est vrai. Ouais. Quelque chose où on se sent bien, un côté un peu cocooning, quoi.
Et alors là, nous allons où ?
Alors, on se dirige vers la librairie OFR. Et c'est une librairie très importante qui est là depuis des années. Mais c'est surtout une librairie qui nous donne accès à des magazines qu'on ne peut pas trouver.
Ah oui, tous les magazines
ailleurs.
Branchés.
Pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien de design, de la musique, de la mode, de la nature, du lifestyle. Mais c'est surtout qu'ils collectionnent des anciens numéros. Et c'est vrai que moi, je m'y rends souvent, d'abord pour m'inspirer. Il a des éditions assez incroyables. Et il fait des expositions. Et il expose aussi, dès qu'il y a un jeune qui peut lire un nouveau livre, il les met en avant à travers des expositions aussi bien photos. Mais ça peut être des dessins. Mais je pense qu'il en parlera mieux que moi.
Nous sommes rue du Petit Thouars, donc devant le carreau du Temple. Il y a beaucoup de cafés-restaurants avec leurs terrasses, leurs chaises en osier. À l'ancienne.
Et il y a surtout la maternelle où ma fille était. J'aime bien passer là, j'entends il y a toujours les cris des enfants. On entend les enfants dans les cours comme ça, de récréation. C'est toujours agréable et ça me fait toujours penser à cette époque.
Et qu'est-ce qu'elle fait, votre fille, maintenant? Elle n'est plus à la maternelle.
Ah non, elle a bien grandi. 23 ans.
L'âge de votre marque, non?
Exactement. Presque en même temps, au même moment où j'ai eu ma fille, j'ai créé ma marque.
Est-ce que ça a marché tout de suite?
Comme toute chose qu'on commence, il faut du temps. Donc ça n'a pas marché tout de suite. Mais je pense que j'étais assez inconsciente. J'adorais ce que je faisais. Donc je ne me posais pas trop la question.
Mais ils font beaucoup de bruit, hein, les enfants. C'est l'heure de la récréation.
Ouais, c'est l'heure de la récréation.
Vous n'avez jamais eu envie d'habiter ailleurs, de sortir du Marais?
Non, les choses se sont faites naturellement. J'aime vraiment ce quartier et j'ai eu la chance, que ce soit au début ou maintenant, de trouver des endroits où je me sens très bien. Et je pense que ce côté village fait aussi du Marais son côté un peu exceptionnel dans Paris. Mais je pense que c'est comme un endroit où vous avez vos repères et finalement vous avez du mal à repartir. Et comme je voyage pas mal, quand je reviens, je suis toujours contente de revenir ici.
Eh bien voilà la librairie-galerie OFR. On s'y retrouve dans un instant et tout de suite on va écouter Nick Cave et Kylie Minogue qui chantent Where the Wild Roses Grow, où poussent les roses sauvages. Après tout, on est dans le Marais. Hein.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses. that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, if I do not know. For my name, my name was Eliza Day.
Where the wild roses grow, où poussent les roses sauvages, chanté par Nick Cave et Kylie Minogue. On se retrouve dans un instant avec Vanessa Bruno dans la librairie OFR.
C'est dans une librairie de référence pour les passionnés de presse spécialisée qu'on retrouve Frédéric Taddeï, toujours en compagnie de Vanessa Bruno.
Bonjour Alexandre Tumrel.
Bienvenue.
Nous sommes à la librairie OFR.
Bonjour Alexandre.
Paris avec Vanessa Bruno.
Et Kai, DJ Kai.
Et DJ Kai qui met la musique.
Et qui encaisse.
Oui, qui encaisse aussi. Alors racontez-nous la librairie OFR. Comment est-elle née, Alexandre?
Elle est née, alors OFR ça veut dire zéro franc, elle est née de zéro franc, qui est, donc de zéro euro après, voilà. Elle est née d'une passion pour le papier, pour l'édition. On a d'abord édité, on a distribué ce qu'on éditait, on a distribué d'autres personnes. Pour être encore plus indépendant, on a ouvert nos propres librairies. À Paris, un peu en province, et puis à l'étranger. On en a beaucoup fermé, beaucoup ouvert. Là, par exemple, vendredi, je pars en ouvrir une à Séoul. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, on va en ouvrir une éphémère dans un espèce de centre commercial du luxe. Et juste à côté, une permanente.
Alors, on en parlait avec Vanessa avant d'entrer. Pour moi, c'est, j'ai le souvenir que c'était plutôt un endroit où on trouvait tous les magazines branchés du monde.
Alors, il y a toujours beaucoup de magazines. Il y a également des milliers de livres qui s'intéressent à l'art, à la mode, au textile, à la peinture, à l'architecture, au design. Et on accueille aussi énormément d'expositions. Là, vous avez, vous voyez, là, le petit poster OFR Galerie Constellation. C'est l'inventaire de tout ce qu'on a fait juste en 2018. En 2018, dans cet endroit, sur ce mur et dans la galerie qui est derrière, on a accueilli plus d'une centaine d'artistes en une année. Donc imaginez, en 23 ans maintenant qu'on existe, le nombre d'expositions qu'on a pu faire. C'est à la fois des expositions, des monographies, des solo shows, mais aussi des signatures de livres. On essaie d'accompagner notre actualité éditoriale, des choses qu'on édite, on continue d'éditer, ou des choses qu'on reçoit en tant que libraire. Et également, parfois, des peintres ou des photographes dont on a, pour qui on a un coup de cœur et qu'on expose comme ça.
Et donc ici, Vanessa Bueno vient piquer des idées dans les magazines.
Toutes ces idées viennent d'ici.
Toutes ces idées viennent d'ici, absolument. Moi, je suis ici comme dans une boutique de bonbons. C'est-à-dire, c'est les yeux, tout, on a envie d'y aller, d'y goûter. Parce que si on regarde bien, il y a toujours des détails, le petit carnet, la petite photo, le livre. Et c'est surtout incroyable, c'est qu'on a le droit d'y goûter, on peut les regarder et les ouvrir. Alors que dans une boutique de bonbons, on va vous dire achetez-les d'abord. Mais c'est vrai que c'est un des rares lieux, je trouve, à Paris, où il y a une telle générosité qui va aussi bien sur une actualité très contemporaine et très ouverte à tous les, comme il dit, à tous les milieux, c'est-à-dire aussi bien de lifestyle, de design, que d'architecture, mais qui peut être aussi
même
sur du textile.
Même la nourriture, maintenant.
De la nourriture, absolument.
Pas vraiment.
On a et de la photo.
On a un ami qui fait le meilleur miel du monde.
Voilà. Et au milieu de tout ça, voilà, exactement.
Il y a des pots de miel.
Il y a des pots de miel.
Donc on accueille.
Tout craché, voilà.
Voilà, on accueille son miel.
Et vous avez des poteries, par exemple. Tout d'un coup, il va exposer une très belle poterie au milieu de tout ça.
Il
ne
faut pas que je m'accoude sur la pile de livres, parce que c'est vrai qu'il y a une poterie juste
mais
derrière.
Mais c'est cette générosité qu'il faut savoir regarder.
Et c'est la seule manière de concurrencer Internet, hein, où tout est gratuit maintenant.
C'est ce qu'on aime faire. C'est la vie qu'on s'est choisie, qu'on s'est inventée. Ce qui se passe, en effet, sur Internet, moi, je n'ai pas d'ordinateur, par exemple.
C'est vrai ?
Moi, c'est vrai.
Mais il a un Instagram pas mal. Je vous invite à aller le voir.
J'ai un smartphone.
C'est vrai que Internet a quand même empoisonné pas mal d'éditeurs que vous deviez beaucoup aimer parce que on retrouve tout sur Internet.
Non, on n'a jamais autant vendu de livres. On n'a jamais été aussi connu que depuis qu'il y a les blogs et qu'il y a tous ces gens qui se recommandent les uns aux autres, les super endroits où ils sont allés. Et des personnes très simples qui ont, je sais pas, une vingtaine, une centaine d'amis disent tiens, si tu vas à Paris et le mettre sur leur blog, le mettre sur leur compte Instagram ou je sais quoi, et à la fin, on a des centaines et des centaines de personnes par jour qui viennent à la librairie.
Oui, absolument, madame. Je vais m'occuper de vous. Attendez, qu'est-ce qui vous arrive ?
Il y a une dame qui veut qu'elle enlève un tabouret.
Ouais, m'asseoir. Vous pouvez pas vous asseoir.
Ah oui, parce que ce qui se passe, oui.
Alors,
c'est qu'on a devant la librairie, on laisse deux bancs qui sont pour tout le monde. Et là, on a une dame, c'est super, qui a tellement l'habitude de s'y asseoir qu'elle vient râler parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a des scooters qui ont pris la place de nos bancs qui ne sont pas à leur place.
Oui. Vanessa Bruno va s'occuper de vous, madame.
Vous voulez vous asseoir, madame ?
Oui.
Oui, je vais m'occuper de vous. Venez.
Là, elle est en train de lui remettre le banc sur lequel elle a l'habitude de s'asseoir.
Ben voilà.
Voilà.
Elle est assise, elle est bien,
c'est
tranquille.
Et
merci à toi.
On parlait des influenceurs et des influenceuses. Ça compte beaucoup dans la mode aujourd'hui, Vanessa Bueno.
Oui, mais pour que les influenceurs et les influenceuses soient importants, il faut que derrière, il y ait du contenu. Et donc, il faut qu'il y ait des marques ou des gens qui fassent des choses qui donnent à ces gens-là du contenu.
Oui.
Et sinon, parfois ils ne sont pas grand-chose.
Parfois, même qu'ils les payent un peu pour voilà. qu'ils en parlent. C'est comme ça que ça fonctionne, non ?
Absolument. Donc, il faut mieux être assez indépendant de ces gens-là.
Comment on reste indépendant ? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus possible.
Déjà, il faut être bien avec ce qu'on a. Si on veut toujours plus, il faut déjà être bien dans ce qu'on fait et ce qu'on a. Je pense que c'est ça qui est important. Et de savoir apprécier. Moi, on me dit toujours, ah, mais pourquoi tu n'as pas plus de boutiques, plus de ci, plus de ça. Je dis, mais déjà, ce que j'ai, c'est extraordinaire. Donc, je suis contente déjà de ce que j'ai.
Alexandre, vous êtes resté indépendant ?
On est super indépendant. On est à 100%, c'est ma sœur et moi. On est parti avec zéro et on a fait toutes ces aventures. On a édité, là on a fait un inventaire aussi des éditions. On est à 137 éditions par exemple. Et ces 137 éditions, c'est les choses qui se sont autofinancées en les vendant ici, dans d'autres librairies, qui ont été faites avec cœur, sans aucun calcul, en se disant, tiens, là, on va cartonner, là, on va les vendre. On n'a fait que des choses qui nous ont fait plaisir, dont on était fiers. Et il se trouve que cette méthode, apparemment, est bonne, puisque 23 ans après, on est toujours là. On n'a jamais été aussi populaire. Moi, je suis toujours surpris de... Et ça peut être un lundi matin, ça peut être un dimanche après-midi. Il y a toujours beaucoup de monde ici. Ouais.
Je viens de croiser, c'est incroyable quand même, je te le dis, à l'instant en rentrant. Je lui ai dit bonjour, je viens de croiser mon avocat. Non mais c'est sur la liste. S'il y avait bien un endroit, je ne pensais pas. Donc s'il écoute l'émission, je lui fais un petit coucou.
Et un avocat, c'est nécessaire hein, quand on a fait un cabas comme le vôtre.
Même ici, il vient.
Ce qui a dû être imité à peu près partout. C'est vrai, quand on disait tout à l'heure, ils s'en vont toutes les minutes, c'est y compris les faux.
Y compris les faux, absolument.
Les contrefaçons.
Alors ça nous est aussi arrivé, c'est drôle, on a un sac de magasin, un tote bag.
Oui, on le voit
et,
là.
Et l'autre jour, je me balade à Shanghai et je vois une dame avec un sac de notre boutique. Alors je me rapproche, je suis, oh, c'est génial, écoutez, je me rapproche et c'était un faux.
c'est extraordinaire.
Donc on se rejoint.
Lui aussi fait des sacs et lui aussi souffre de la contrefaçon.
Absolument.
La contrefaçon, c'est la rançon du succès.
Oui, et puis alors surtout, j'ai envie de te dire, tant que les gens veulent avoir l'authentique et viennent pour ça, il faut se rassurer. Voilà. Oui,
les autres peuvent bien avoir un faux.
Exactement.
Enfin, vous le dites là, mais vous ne le diriez pas au tribunal.
On laisse d'autres gens s'en charger. Et qu'ils font très bien.
Ben merci, Vanessa Bruno, de nous avoir emmenés en balade avec vous dans votre Paris. Merci, Alexandre. Merci à les librairies OFR, librairies galeries. Merci au Jardin des Archives Nationales, au Café La Perle et à son propriétaire Jean-Philippe. Merci à Franck Elbaz et à sa galerie, au magasin Gachon Potier et au Candelaria. Nous avons mangé de délicieux tacos. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine de 11h à midi et demi.
Bon dimanche Frédéric, à la semaine prochaine en effet pour une nouvelle balade. D'ailleurs je vous rappelle que celle-ci et les anciennes sont à retrouver sur europe1.fr.